Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs.
À partir de la fin des années 80, dans les médias, Jean-Marie Le Pen fait tomber le masque.
Mais oui, mais ça existe les races, cher ami, ça existe, voyez-vous. Il y a des noirs, il y a des jaunes, il y a la race kabyle, la race arabe, enfin bref, ça existe, oui. Et il me semble, oui, non, vous ne croyez pas?
Apparaît alors son véritable visage politique.
Vous ne croyez pas qu'il y a une race juive? Je crois que c'est évident.
À l'évidence, Jean-Marie Le Pen ne prend plus aucune précaution oratoire. Désormais, il provoque et il adore ça.
Je suis grand, assez athlétique, blond, je crois assez extraverti. Je sais pas, j'ai un surnom, on m'appelle le Menhir. Je trouve que c'est un surnom qui me décrit assez bien. Une pierre levée, du granit debout, c'est un peu ça.
Quand débute la décennie 1980, Jean-Marie Le Pen cherche une forme de respectabilité, car il veut se réinsérer dans le paysage politique français. Il rabâche sans cesse qu'il est de droite et pas d'extrême droite.
N'étant ni extrémiste, ni dans les méthodes, ni dans les propositions, je ne vois pas pourquoi je serais réputé extrême droite.
Il manipule les mots avec prudence, il veut être sur la photo. Et puis, soudain, à la fin des années 80, Jean-Marie Le Pen se diabolise lui-même. Alors, que s'est-il passé entre 1986 et 1988? C'est la question de ce nouvel épisode.
Alors aujourd'hui, Monsieur Le Pen, vous faites partie de la réalité de la société française. C'est un fait et c'est pourquoi je vous ai invité ce soir.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Jean-Marie Le Pen, l'obsession nationale. Cinquième épisode, le vol noir du corbeau.
La parole est à Monsieur Le Pen.
Je crois qu'on entre en politique comme on entrait autrefois dans les ordres, c'est-à-dire en fait poussé par une puissante vocation.
Jean-Marie Le Pen, vous êtes fasciste?
Monsieur Le Pen, est-ce que vous considérez qu'il y a eu un génocide de juifs?
Est-ce que vous vous considérez comme un démocrate?
Allons, enfants de la patrie!
Les lettres que nous recevons en porte-témoignage, Monsieur Le Pen, vous faites peur.
Le récit commence le dimanche 16 mars 1986. Ce jour-là, la France doit élire ses députés avec un nouveau mode de scrutin, la proportionnelle. C'est-à-dire que le nombre de sièges est partagé en fonction du nombre de voix obtenues. Une affaire de pourcentage.
À voter, à voter, à voter.
Et avec cette simple règle de trois, les conséquences sont immédiates.
Monsieur Le Pen a ce soir de quoi se réjouir, puisqu'avec 33 députés, il pourra même se payer le luxe de constituer son propre groupe à l'Assemblée. Après 24 ans d'absence, Jean-Marie Le Pen va bientôt retrouver les bancs de l'Assemblée qu'il avait quittés en 1962, et ses collègues du Palais Bourbon peuvent être sûrs qu'il n'a vraiment pas l'intention d'y rester muet.
La parole est à Monsieur Le Pen.
Jean-Marie Le Pen, dans le journal National Hebdo, 1986. En revenant à l'Assemblée nationale après 25 ans d'absence, une odeur de décadence m'a prise à la gorge. Elle était dans un triste état. Je me fais l'effet d'Hercule dans les écuries d'Augias.
Messieurs, silence, je vous prie.
Jean-Marie Le Pen jubile. Son Front National obtient 35 sièges. 34 députés réunis autour de Jean-Marie Le Pen, qui leur a réservé une surprise dès le lendemain du scrutin.
Il allait chercher des notables, des anciens du RPR de Jacques Chirac, des anciens de l'UDF de Valéry Giscard d'Estaing.
L'historien Nicolas Lebourg.
Le premier truc qu'il fait, il les amène sur la tombe de François Duprat qu'on évoquait tout à l'heure. C'est une tombe frappée d'une croix celtique, d'un personnage assassiné dans un attentat à la voiture piégée, qui a des liens dans le Moyen-Orient, qui a des liens partout durant sa vie. Bref, c'est un des personnages les plus sulfureux de l'histoire de l'extrême droite. Qu'est-ce qu'il fait en faisant ça? Pardonnez-moi l'expression, il les crame. Il leur dit, si vous voulez repartir au RPR ou à l'UDF un jour, on pourra vous redire que vous étiez sur la tombe de François Duprat. Et vous verrez vos camarades comment ils vous traiteront. Il les crame. Il leur dit, vous êtes avec nous, définitivement. Et c'est quelque chose qu'a toujours fait Jean-Marie Le Pen. Il ne veut pas être trahi.
Merci à vous tous, mesdames et messieurs, de votre fidélité. Je pense que là où il est, François doit s'en rendre compte et être heureux.
Cette visite sur la tombe de François Duprat, c'est comme la part du sang. Pratique étrange pour un parti politique. Après ces élections du printemps 1986,
le président de la République décrète M. Jacques Chirac est nommé Premier ministre.
Jacques Chirac devient donc Premier ministre. C'est la cohabitation avec François Mitterrand.
La France doit être gouvernée dans la clarté et dans l'efficacité.
Ayez en tête que Le Pen espérait alors entrer au gouvernement pour devenir ministre de la Défense. Il en rêvait, mais Chirac le snob. Le Pen fulmine. Humiliation. Toujours est-il qu'avec ses 35 députés, les médias s'intéressent à Jean-Marie Le Pen. Et on vient faire des reportages à domicile.
Dans les familles, le papa, c'est souvent le père fouettard, celui dont on menace les enfants si jamais elles ne travaillent pas bien. Ou si elles ne
Apparemment, elles n'ont pas l'air d'avoir peur de vous.
Non, je ne crois pas. Non.
Mon père, c'est quelqu'un dont vraiment je suis fière. Vraiment, j'en suis très fière. Je suis vraiment très heureuse de m'appeler Mlle Le Pen et de plus en plus.
Marine Le Pen avait 17 ans. Et c'est sans doute la première fois qu'elle s'exprime à la télévision. Face à cette percée de l'extrême droite, avec ses 35 députés et ses slogans nationalistes, les Français d'abord, une partie de la société civile se mobilise.
Touche pas à mon pote. Peut-être avez-vous déjà vu ce badge. C'est celui d'une nouvelle association qui s'appelle SOS Racisme. Son but, lutter contre le racisme en dehors des circuits classiques, s'adresser aux jeunes et utiliser un langage direct.
On savait bien qu'on réussirait pas à vous décourager.
Harlem Désir, ancien militant d'extrême gauche et jeune président de SOS Racisme, organise de grands rassemblements populaires pour sensibiliser l'opinion publique.
Mais pourtant, on peut dire que rien ne nous a été épargné. La récupération par-ci, trop de juifs par-là, les arabes ceci, les arabes cela. Pourtant, vous êtes là, vous êtes venus. Parce que vous le savez, ce mouvement n'appartient à personne. Parce qu'il n'appartient qu'à vous. À vous, que vous soyez beurre de Bordeaux, juif de Toulouse, antillette de Brest. À vous, français de toute culture, immigrés de la première à la dixième génération.
La montée en puissance du Front National suscite de nombreuses réactions d'inquiétude et d'hostilité. Parmi elles, le groupe punk rock Berrurier Noir, créateur d'un slogan qui va frapper les esprits.
La jeunesse en mer, le Front National. 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 Merci. Merci, ce soir vous êtes super. Alors la prochaine fois que le gros Le Pen, là, il baladerait dans la France, je vais vous voir gueuler comme ce soir, ok?
La jeunesse s'époumonne contre le Front National. Mais Jean-Marie Le Pen a le vent en poupe. Et il s'est même fixé un objectif secret. Atteindre le second tour de l'élection présidentielle de 1988 en tant que candidat de la droite
sociale, populaire et nationale.
Et pour ce faire, il reçoit un soutien inattendu. Dans cette affaire, le révérend coréen Sun Myung-moon.
Moon aux États-Unis, c'est un peu une religion, une de ces nombreuses sectes qui fleurissent outre-Atlantique et proposent chacune à sa façon la vérité vraie. Et puis dans la pratique, Moon est un champion de l'anticommunisme et considère que ses détracteurs sont des marxistes. C'est un grand rassemblement de 2 millions de membres qui, à travers le monde, collectent une véritable fortune à longueur de journée Une fortune qui est utilisée, on se demande comment.
Eh bien, la secte Moon va financer Jean-Marie Le Pen. Anticommuniste et chrétien illuminé, le révérend Moon considère le président du Front National comme un allié précieux en Europe. Moon veut faire de Le Pen un chevalier en croisade. C'est Pierre Sérac, représentant de la secte Moon en France et député FN élu en 1986, qui a géré les termes de leur accord.
Un accord logistique national et international qui devait pouvoir amener Jean-Marie Le Pen jusqu'à l'élection présidentielle de 88. C'était des millions.
Jean-Marie Le Pen est sur orbite.
Il y a eu beaucoup d'événements, si vous voulez, qui ont été entrepris, qui n'auraient pas pu l'être sans nous. Donc notre apport à la campagne présidentielle en France a été absolument décisif.
Récapitulons.
Française, Français, j'ai pris la grave décision d'être l'an prochain candidat à la présidence de la République.
En 1987, Jean-Marie Le Pen est député, chef du groupe parlementaire FN, et très vite, il se projette vers l'élection présidentielle de l'année suivante.
Aidons-nous, j'en suis sûr, Dieu nous aidera.
Largement financé par la secte Moon, il multiplie les voyages à l'étranger pour se bâtir une stature internationale.
Le Pen, comme un poisson dans l'eau en Afrique noire. Le chef du Front National Jean-Marie Le Pen soigne sa pub avec un voyage d'une douzaine de jours en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Zaïre et au Sénégal.
Les sondages le créditent alors de 18% au premier tour. Inouï pour l'époque. Et puis arrive le printemps 1987. Et en France, s'ouvre un procès crucial.
Je demande au service d'ordre d'introduire l'accusé, s'il vous plaît.
Nous sommes le 11 mai.
Quels sont vos noms et prénoms ?
Après 38 ans d'impunité et 4 années d'instruction, Klaus Barbie est depuis 2 minutes exactement devant ses juges, la cour d'assises de Lyon et ses 9 jurés. L'ancien chef de la section 4 de la Gestapo de Lyon comparaît pour crime contre l'humanité. C'est la première fois que semblable procès a lieu en France. Il doit durer 2 mois. Klaus Barbie, qui est âgé de 74 ans, risque la réclusion criminelle à perpétuité.
Le procès Barbie dure plusieurs mois et il occupe une large place dans les médias. C'est bien normal, la France se penche sur ces années noires. On affronte les souvenirs et il y a une atmosphère particulière, une atmosphère de gravité à l'évocation du sort des Juifs de France sous l'occupation.
Dans le dossier, une preuve, une seule. Le téléx envoyé par Barbie porte bien sa signature et rend bien compte de la rafle des enfants d'Isieux.
Et c'est dans ce climat, sur l'antenne de RTL, le 13 septembre 1987, que Jean-Marie Le Pen fait tomber son masque.
Je suis un passionné aussi par l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Je me pose un certain nombre de questions et je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Ce matin-là, sur RTL, on a entendu le vol noir du corbeau sur nos plaines. Propos immondes, le choc est mondial, la France a honte. Jean-Marie Le Pen s'est enfin dévoilé, disciple de François Duprat, négationniste. Que dire d'autre ? Donnons la parole à Cécile Alduy, sémiologue politique.
Alors, cette séquence, elle est révélatrice d'une idéologie antisémite de conviction. Et quand on lit les discours et les textes de Jean-Marie Le Pen, on s'aperçoit que c'est parsemé d'allusions antisémites. Donc ce n'est pas une langue qui fourche, c'est en fait un inconscient extrêmement fort qui se manifeste, premièrement. Et deuxièmement, ça va être un tournant dans l'histoire de Jean-Marie Le Pen, puisqu'il va être ostracisé par les médias et les hommes politiques à la suite de ce dérapage antisémite qui contrevenait à l'époque à toutes les normes du discours politique. Je crois qu'il faut se rappeler qu'en 1987, on est à peu près 40 ans après la Deuxième Guerre mondiale, les survivants de la Shoah sont parmi nous, les familles de survivants aussi, le choc est immense.
C'est le procès Klaus Barbie. Hein.
Exactement, le procès Klaus Barbie et au journal de 20h. Donc le choc est immense, l'ostracisme va être à la mesure du choc, mais c'est aussi une publicité immense. Et Jean-Marie Le Pen dira à ses collègues du Front National par la suite, oui, d'accord, peut-être plafond de verre avec le détail, mais aussi, on a explosé après dans les élections. Donc ça a été une notoriété immédiate, avec cette idée que, d'un côté, les alliances deviennent impossibles électoralement, mais Jean-Marie Le Pen va alors endosser ce rôle qui s'attribue lui-même de diable pour jouer la victimisation et pour se présenter comme le représentant de tous ceux qui sont exclus et ostracisés. Toute la rhétorique populiste qu'il avait déjà commencé à adopter, il va pouvoir y greffer un récit victimaire, du complotisme, l'idée qu'il est censuré par les médias, l'idée qu'il y a une coalition de tous les autres partis contre lui. Et plus l'opinion publique va être déçue par les partis traditionnels, plus il pourra se présenter comme la seule alternative réellement différente.
J'aimerais maintenant vous faire entendre la suite de cette séquence sur RTL. Elle nous rappelle qui est Jean-Marie Le Pen.
Mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Bon, mais vous mettez en doute...
C'est un point de détail.
Non, mais est-ce que
6
c'est...
millions de morts.
Est-ce que vous affirmez... Non, pardon.
Je l'ai compris, mais...
Non, mais 6 millions de morts, comment c'est...
Juifs. Oui. Dans la Seconde Guerre mondiale, vous considérez que c'est un point de détail?
Non, c'est la question qui a été posée, c'est de savoir... Comment ces gens ont été tués ou non, n'est-ce pas?
Oui, c'était pas un point de détail quand même.
Si, c'est un point de détail, je veux dire de la guerre, oui. Enfin écoutez, est-ce que c'est... Voulez-vous me dire que c'est une vérité révélée à laquelle tout le monde doit croire? C'est une obligation morale. Je dis qu'il y a des historiens qui débattent de ces questions.
Il y a une immense majorité d'historiens qui l'ont dit éprouvé et
absolument.
Quelques autres qui...
Non mais vous-même, M. Le Pen, est-ce que vous considérez qu'il y a eu un génocide de juifs?
Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de centaines de milliers, peut-être des millions de morts juifs et aussi de gens qui n'étaient pas juifs, n'est-ce pas?
Bon, d'abord, je pense qu'il a un bon vieux fond antisémite.
La politiste Nona Mayer.
Là, c'est quelque chose qui est sorti, c'est son inconscient qui a parlé. Mais une fois qu'il l'a dit, il était trop fier pour se dédire. Et donc, il en a rajouté. Il y a aussi quelque chose dans son entourage, on me dit, que ça lui a renforcé dans son idée qu'il y a un lobby juif. Ce mythe tenace du lobby juif, tout ça va lui permettre effectivement de jouer le non-respectable et de diaboliser lui-même son parti. On peut très facilement accuser les autres, mais c'est lui, le premier diabolisateur, c'est lui-même.
Dans cette séquence de diabolisation, la télévision joue un rôle. À partir de mars 1988, le Bébête Show, émission politique satirique, devient un rendez-vous quotidien sur TF1. Et Jean-Marie Le Pen y apparaît sous les traits de Pen Kassim.
Il faut boutoir tous les immigrants hors du territoire François. Comptez sur moi et mon copain Stirbois pour leur taper dessus à tour de bras.
Dans le Bébête Show, la marionnette de Le Pen a des dents de vampire. Le Pen est devenu un paria. Disons qu'après cette affaire, du point de détail sur RTL, tout change.
C'est vraiment le point de bascule. Et pour ça, on a un instrument qui est extraordinaire, qui est un baromètre d'image du Front National pour Le Monde. Et on pose la question, est-ce que vous avez le sentiment que Jean-Marie Le Pen et son parti, puis ensuite ce sera sa fille, représentent un danger pour la démocratie? Et ça commence en 83. Et en 83, une majorité dit non. 38% de la population, échantillon national représentatif des personnes en âge de voter, 38% y voient un danger pour la démocratie. Et en 85, on passe à 50% y voient un danger pour la démocratie. Et en octobre 87, après la phrase sur le point de détail, on passe à 65%. Et là, il y a vraiment un décrochage, l'année d'après, 67, après du rafour crématoire. Et il va falloir attendre Marine Le Pen pour que ça retombe quand elle va mener toute sa stratégie de normalisation du parti. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens qui ne se prononcent pas sur le sujet, ils sont 19% en octobre 83, ils sont 8% à partir de sa phrase sur le point de détail. Il est dorénavant perçu comme un danger pour la démocratie. Et véritablement, tout cela va jouer contre lui. C'est un dossier à charge qui s'accumule. Il est furieux. Il y a une commission parlementaire sur l'extrême droite en France, au Parlement européen. Et donc, vraiment, 87 est la bascule. Et de son vivant, on ne redescendra jamais sous la barre des 50% d'une majorité de gens qui considèrent qu'il est un danger pour la démocratie. Et on voit clairement qu'il y a quand même, même si on dit que ce tabou s'use, il y a quand même le tabou de la Shoah. Hein, ce passé qui ne passe pas, mais qui quand même fait que ça a modifié son image. Et une partie de ses troupes, d'ailleurs, il y avait quelques résistants, quelques gaullistes, ils vont partir, parce que là, il y a quelque chose qui n'est pas admissible. Donc c'est un vrai tournant.
Alors, arrive ensuite l'élection présidentielle de 1988. Nous sommes quelques mois après le détail et le durafour crématoire. Comment se passe cette nouvelle campagne présidentielle pour le candidat Le Pen, qui a obtenu ses signatures? Comment se passe cette campagne présidentielle en 88, Nona Maier?
Elle se passe bien de son point de vue. Je veux dire, il est perçu à ce moment-là, c'est intéressant, parce que depuis cette affaire du point de détail, et même déjà un peu avant, mais il y a une très forte mobilisation à gauche et à l'extrême-gauche. Il y a des tas de petits collectifs qui se créent. Il y a les scalps, les sections carrément anti-Le Pen. On colle des moustaches de Hitler sur ses affiches. On coupe l'électricité dans ses meetings. Donc il y a une partie de la France qui y voit vraiment un grand danger. Donc pour eux, ça ne se passe pas si bien que ça de 84 à 88. Là, ils sont contre. Mais en même temps, on sent qu'il y a une lassitude à l'égard des gouvernements des socialistes et qu'il va récupérer une partie dans ce vote, les déçus du socialisme. Et puis, il y a une partie de cet électorat à droite, ou ni à gauche ni à droite, pour qui l'antisémitisme, je dirais que c'est un détail.
25 avril 1988.
Spéciale élection, Thierry Bourgeon.
Bonjour. La photo de la classe politique et de ses candidats au lendemain du premier tour. Elle est développée depuis 6 heures ce matin sur France Inter. Sur le cliché, ils ont tous le sourire de circonstance. Au premier rang, les deux reçus pour le deuxième tour. François Mitterrand, prix d'excellence avec 34,10% des suffrages exprimés. Et Jacques Chirac, premier prix de la majorité parlementaire avec 19,90%. Derrière, les recalés. Au deuxième rang, Raymond Barre avec 16,55%. Jean-Marie Le Pen avec 14,41% qui vont peser lourd. Et pour le prix de la camaraderie, si j'ose dire, André Lajoigny avec seulement 6,78%.
Alors c'est la deuxième confrontation à l'élection présidentielle de Jean-Marie Le Pen.
Le politiste Pascal Perrineau.
Et il va obtenir un succès qui est loin d'être négligeable. Il va rassembler un nombre extrêmement important d'électeurs et qui viennent à la fois de l'héritage de l'extrême droite traditionnelle. Mais on le voit bien, c'est pas grand-chose. Mais il rassemble également des électeurs de droite déçus qui considèrent que Jacques Chirac a cohabité avec François Mitterrand pendant 2 ans, que si on veut une droite ferme, il vaut mieux se tourner vers Jean-Marie Le Pen. Et puis, il va même un peu au-delà. C'est-à-dire, il commence à percer dans des milieux qui sont des milieux de gens qui hésitent entre la droite et la gauche, et même, de manière très minoritaire encore à l'époque, d'électeurs de gauche déçus, qui se disent au fond qu'en votant Jean-Marie Le Pen, on vote populaire. C'est-à-dire que là, le Front National va jouer beaucoup sur l'impact qu'a ce grand démagogue populiste qu'est Jean-Marie Le Pen. Parce qu'il ne faut pas oublier ce Jean-Marie Le Pen de l'époque. Ce n'est pas le vieux monsieur affaibli d'aujourd'hui. C'est un Jean-Marie Le Pen qui a une gouaille absolument phénoménale, qu'on l'aime ou non, ce n'est pas le problème, qui est un grand orateur, mais qui apparaît comme l'homme qui ne connaît pas de tabou au plan discursif. Et ça, quelque part, ça plaît à l'époque où commence à se développer en France une hostilité très forte vis-à-vis de la classe politique. On considère, au fond, les Français commencent à considérer que la politique, c'est décevant, que les hommes et les femmes politiques sont corrompus, timorés, que rien ne change, que ça soit la droite ou la gauche, que la condition des gens issus du peuple ne peut pas changer. Et Jean-Marie Le Pen va commencer à apparaître comme l'alternative.
Dans l'entre-deux-tours, le candidat RPR, Jacques Chirac, refuse une alliance avec le recalé Jean-Marie Le Pen et ses 14%.
Une victoire dans un fauteuil pour François Mitterrand, réélu président de la République avec 54,05% des suffrages exprimés, 45,95% pour Jacques Chirac.
9 mai 1988.
Un peu plus de 2,5 millions de voix séparent les deux candidats.
Aujourd'hui, la France se retrouve dans l'impasse d'où elle avait cru pouvoir sortir.
Jean-Marie Le Pen, au soir du second tour.
Les Français vont une fois de plus pouvoir vérifier l'incapacité de la gauche à résoudre les problèmes de l'immigration, ceux de l'étatisme bureaucratique et fiscaliste, ceux du chômage et ceux de l'insécurité.
Avec cette affaire du point de détail sur RTL, on pourrait penser que Jean-Marie Le Pen a foudroyé son ascension vers le pouvoir. C'est en partie vrai, mais c'est peut-être un peu plus compliqué. Comment synthétiser ces deux années cruciales dans la vie politique de Le Pen entre 1986 et 1988 ?
Alors Jean-Marie Le Pen, dans ses années 86-88, il a un certain génie pour transformer la déception en progrès.
Nicolas Lebourg.
D'après ses proches, par exemple, en 86, il rêvait d'être ministre de la Défense de Jacques Chirac. Il rêve encore de pouvoir faire une coalition avec les partis de droite. Bon, ça se fait pas. Eh ben, il fait l'opposition au maximum et il se présente. Le cap, c'est d'aller à 20%. Le cap, c'est le second tour. Il fait 14,5%. Il dit que c'est un triomphe. Mais néanmoins, il y a une question qui se pose, qui va dire à ses proches, c'est « je ne saurais jamais si c'est malgré ou grâce au point de détail ». Et ça, c'est une question qui va venir tarauder Jean-Marie Le Pen. C'est « est-ce qu'une provocation aussi absolue que le point de détail qui fait un tollé international, c'est quelque chose qui vous positionne en anti-système, qui vous permet de mobiliser des électeurs autour de vous, et en fait c'est une façon d'aller fracturer le système réellement ? Ou est-ce qu'au contraire, ça vous cornérise et vous êtes là avec vos quelques pourcents, peut-être 15, peut-être 20, mais en fait, vous ne pouvez pas jouer au jeu des institutions. Ça va être une des grandes questions qui va durer jusqu'au débat amenant à la stratégie de diabolisation.
Jean-Marie Le Pen persiste et signe.
8 février 1990.
Dans une interview accordée à nos confrères du Quotidien de Paris, le leader du Front National réaffirme que les chambres à gaz sont un détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Si, c'est un point de détail, je veux dire de la guerre, oui.
Il s'empresse d'ajouter immédiatement, un détail peut être insignifiant, mais il peut aussi être essentiel, comprenne qui voudra.
Au début des années 1990, Jean-Marie Le Pen est donc convaincu qu'il faut entretenir sa stratégie de rupture avec le système. Une tactique. Il multiplie les provocations verbales. Il joue la carte du dissident, du contre-courant, de celui qui ne fait rien comme les autres.
Jean-Marie Le Pen est arrivé aujourd'hui à Bagdad où il avait rendez-vous avec Saddam Hussein, le leader du Front National qui conduit une délégation parlementaire des droites européennes, a adopté depuis longtemps une attitude favorable à l'Irak en prenant le dialogue et surtout la négociation. La classe politique française évoque une démarche honteuse et irresponsable.
À l'automne 1990, quelques semaines avant la première guerre d'Irak, Jean-Marie Le Pen prend la défense du dictateur de Bagdad où d'ailleurs il est reçu en grande pompe.
Tout sourire, Saddam Hussein reçoit dès son arrivée, et c'est une première pour un visiteur étranger, celui qui est sans doute son meilleur allié en France. De Saddam Hussein, il dit avoir été frappé par sa volonté de dialogue et de paix.
Toutes ces provocations n'entraînent aucune érosion chez ses supporters. Jean-Marie Le Pen se stabilise à 15% dans les sondages. Et en 1992, il se lance dans les élections régionales. Il est candidat en région PACA, dans le Sud-Est, et son affiche officielle fait causer. D'abord, qu'est-ce qu'on y voit sur cette affiche ?
On voit donc Jean-Marie Le Pen rayonnant, tout sourire, les cheveux blond platine plaqués en arrière, costume cravate et qui porte dans ses bras une petite fille de 3 ans, blonde et mignonne, qui n'est autre que sa petite fille, Marion Maréchal Le Pen.
Cécile Alduit.
Et au-dessus, sur un azur immaculé, le slogan « La sécurité première des libertés », puis Front National, La Flamme, FN. Et donc, c'est une affiche de campagne dans sa structure, dans sa composition assez classique, mais qui comporte cette symbolique des générations réunies dans cette accolade grand-paternelle. Et donc là, on pourrait peut-être décrypter quel est le message subliminal dans cette affiche. D'une certaine manière, mettre la petite fille dans les bras de son grand-père, c'est poser Jean-Marie Le Pen comme le patriarche, le père de la nation. C'est aussi faire le lien entre les générations et appuyer sur cette idée que la vision qu'il propose, c'est celle d'une lignée. Une lignée idéologique par rapport à l'extrême droite, mais aussi le respect des ancêtres, de la terre et des morts, des Français de souche qui sont nés de grands-parents français, et on pourrait ajouter blanc et blond dans cette affiche. Il y a quand même un arrière-fond un peu problématique qui ne peut quand même que rappeler les affiches du Parti national-socialiste des années 30 autour de l'arianité. C'est totalement subliminal. C'est pas quelque chose qu'on pourrait citer pour accuser de racisme Jean-Marie Le Pen, mais c'est présent. À l'époque, il y avait tous ces débats sur la génération Benetton, où il y avait des affiches avec des jeunes de toutes les couleurs, des roux, des blonds, l'immigration de deuxième génération, etc. Et Jean-Marie Le Pen avait eu des mots exécrables contre cette génération Benetton. Et lui, il propose une alternative, la génération de demain. Ce qu'il faut, c'est qu'elle continue d'être blanche et blonde.
Et revenons au slogan. La sécurité, trois petits points. Première des libertés. Sous-entendu, cette petite fille, elle est menacée.
Exactement. Donc là, c'est la connexion entre les mots et l'image qui est intéressante parce qu'elle se joue uniquement sur des sous-entendus. C'est vraiment tout dans l'amalgame inconscient qui va se fabriquer en tissant tous les discours qu'on connaît par ailleurs du Front National. Le premier mot, la sécurité, c'est faire peur. La sécurité, en fait, le sous-texte, c'est l'insécurité. Et la sécurité, elle ne sera garantie que si on arrive à préserver cette petite fille blonde, toutes les menaces extérieures que l'on imagine immédiatement en ravivant l'inconscient collectif véhiculé par le discours de Jean-Marie Le Pen d'habitude. C'est entre guillemets horde étrangère, c'est vague migratoire. En plus, on est en région PACA, il y a un petit bout de la Méditerranée qui est dans le fond. Jean-Marie Le Pen a promu ce livre qui s'appelle « Le camp des saints » de Jean Raspail, qui décrit l'invasion de l'Europe par des hordes venues de la Méditerranée. Là, on reste dans une image qui est idyllique pour contrer une apocalypse possible si cette sécurité n'est pas garantie.
Et donc, première des libertés.
Oui.
Mot pas forcément... polysémique, on va dire.
Tout à fait. Alors ça, c'est typique aussi du discours d'extrême droite, c'est que les mots sont les mêmes. La liberté dans le discours de Jean-Marie Le Pen a le même nombre de lettres que la liberté dans un discours républicain, mais ça ne correspond pas du tout à la même chose. Ne serait-ce que de mettre la sécurité avec un signe égal avec liberté, ça nous suggère que la liberté, en fait, ce n'est pas les libertés individuelles, les droits de l'homme, les libertés de la presse, par exemple, que combat Jean-Marie Le Pen, mais bien plutôt la liberté d'être chez soi avec des gens qui nous ressemblent, ce qui n'est pas du tout la même chose.
Madame, Monsieur, bonsoir.
Bonsoir.
Il est quasiment 20h et nos invités sur le plateau vont découvrir avec nous les estimations des résultats obtenus par les partis. Voyons ce que ferait le Front National.
Le 22 mars 1992, la liste de Jean-Marie Le Pen obtient dans la région PACA 23,44% des suffrages. Un nouveau choc. Avec son discours hostile aux populations immigrées, Jean-Marie Le Pen infuse à droite. Et la stratégie pensée par François Duprat dans les années 70 fonctionne. Souvenez-vous, forcer la droite à s'emparer des thématiques de l'extrême droite. Et Jacques Chirac, en perte de vitesse, vient alors chasser sur les terres du Front National.
Comment voulez-vous que le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a 3 ou 4 jours, et qui travaille avec sa femme, et qui ensemble gagne environ 15 000 francs, et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Il devient fou, c'est comme ça, et il faut le comprendre. Et si vous y étiez, vous auriez la même réaction. Et ce n'est pas être raciste que de dire cela.
Eh bien, disons alors que de son côté, Le Pen se lèche les babines.
Je constate que Jacques Chirac arrive à tenir le même discours que le Front National, tout en continuant à affirmer que le Front National est extrémiste et à le diaboliser. Il y a là une contradiction qu'il faudra bien qu'il lève, ou qu'à défaut, les électeurs lèveront pour lui.
Est-ce que vous ne craignez pas que finalement le RPR ne finisse par vous couper un peu l'herbe sous le pied ?
Eh bien écoutez, je ne le crois pas. Honnêtement, parce que je crois que les électeurs préféreront toujours l'original à la copie.
Le bruit et l'odeur.
À l'élection présidentielle de 1995, au premier tour, le candidat Le Pen stagne à 15% des suffrages. Un plafond de verre. Et c'est à ce moment-là qu'entre en scène un étrange personnage.
Bruno Maigret, bonjour.
Bonjour.
Bruno Maigret, c'est un technocrate.
Nicolas Lebourg.
C'est quelqu'un qui, effectivement, est un haut fonctionnaire, qui a des qualités politiques certaines d'organisation, de discipline, qui vient de la nouvelle droite, d'une tendance qu'on appelle le club de l'horloge, qui est à la fois une conception libérale en économie et qui a assume une conception ethnique, voire raciale, de la nationalité. Bruno Maigret participe au RPR de Jacques Chirac, et puis après la victoire de François Mitterrand, il se dit que la droite est morte, il tente sa propre aventure, il tente de créer une petite formation. C'est pas si simple que ça, c'est le Front National qui émerge, pas la sienne. Il se rallie, et puis il va prendre le contrôle du Front National dans les années 90. Il installe ses hommes.
Bruno Maigret, énarque, restructure le Front National pour en faire une machine électorale. Et dès 1995, les résultats sont là.
Bonjour. Lendemain de municipal, Toulon, Marignane et Orange passent au Front National. Le parti de Jean-Marie Le Pen, en revanche, échoue à Vitrolles, à Dreux et à Noyon. En tout cas, l'EFN confirme son implantation très forte dans le sud-est de la France.
France Inter. Aux élections municipales de 1995, le FN remporte 3 villes, dont Toulon. C'est la première fois que l'extrême droite revient au pouvoir en France depuis le régime de Vichy. Mais ce n'est pas sans créer des tensions au sein du parti.
Quand vous avez votre mairie, voir que quand vous êtes député-maire, comme M. Bompard à Orange, ben vous n'êtes plus redevable au chef de la même manière. Et ça, c'est quelque chose qui va causer un gros souci, parce que Jean-Marie Le Pen ne veut absolument pas de barons locaux. Il ne veut pas avoir à négocier avec des petits potentats locaux. Il trouve ça tout à fait méprisable. Et de l'autre côté, les gens qui, bien évidemment, sont arrivés à conquérir une mairie, ce qui est quelque chose de combien difficile, se disent qu'ils n'ont pas tant de leçons que ça à recevoir d'un parti qui échoue à l'échelle nationale. Donc, il va y avoir des tensions. Sans ces victoires municipales, vous n'avez pas les tensions qui vous amènent à l'explosion, à la scission de 98-99. Elles sont incompréhensibles sans. Et la meilleure manière de s'en rendre compte, c'est dans les congrès du Front National. On voit bien que l'enthousiasme des militants, il est autour de Bruno Maigret, qui a l'idée qu'il y a quelque chose de neuf qui est en train de se jouer. Et ça, c'est terrible pour Jean-Marie Le Pen, parce que d'un coup d'un seul, c'est la première fois où on lui dit « En fait, ce parti pourrait te survivre. » Voire même, « Ce parti pourrait mieux vivre sans toi. » Et ça, c'est quelque chose de tout à fait violent pour lui. Il considère qu'il n'y a pas de différence entre lui et le parti.
Bruno Maigret, dans l'ombre des Le Pen, 2012. J'espérais pouvoir construire une grande force de droite capable de contraindre le RPR et l'UDF à l'Alliance. Quant à Le Pen, je ne le voyais pas en président de la République. Mais il fallait faire avec lui, avec ses défauts et avec son talent.
Les rivalités entre Maigret et Le Pen s'aiguisent très vite. Et en 1997, Le Pen rejoue la stratégie de la rupture. Il veut reprendre la main.
À propos de la campagne toujours, sachez que Jean-Marie Le Pen s'est déplacé ce matin à Mantes-la-Jolie pour soutenir sa fille Marie-Caroline. Et vous allez le voir, cela ne s'est pas très bien passé. Michael Darmon et des images signées Patrick Desmully.
Jean-Marie Le Pen arrive à Mantes-la-Jolie. Des manifestants anti-FN l'accueillent, crient, insultent, la bagarre commence tout de suite.
Jean-Marie Le Pen vocifère, le regard haineux.
Vous avez compris, on en a marre.
Il moleste physiquement la candidate socialiste.
Le sourire est plaqué, mais le ton de la visite est donné. Venu soutenir sa fille Marie-Caroline pour le deuxième tour, Jean-Marie Le Pen visite les commerçants. Autour de lui, manifestants, policiers et services d'ordre frontistes s'affrontent.
Vous avez été même quasiment jusqu'à vous-même, vous mêlez à la bagarre.
Ah ben, dans la mesure où on m'agresse, moi, j'ai jamais eu peur d'un autre homme, ni même de plusieurs.
Et il va le montrer une seconde fois, n'y tenant plus, Jean-Marie Le Pen se rejette dans la bagarre.
La violence de rue, la marque de l'extrémisme.
Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein ? PD !
Ah, ça me rajeunit.
Ça va ?
Alors Jean-Marie Le Pen va avoir une attitude très provocatrice devant les caméras de télévision et effectivement on va être sur un déchaînement d'attitude provocatrice, violente, il va bousculer cet élu socialiste, ça va le rendre inéligible, ça va pousser là aussi à la scission du Front National et puis il marque tout à fait son attitude de quelqu'un qui est dans la provocation. Et ça, c'est important, parce que vous savez, il y a une seule catégorie de la population qui vote à plus de 50% à chaque tour. C'est les retraités, c'est les seniors. Si vous êtes fâché avec eux, vous perdez. Or, il a une attitude qui, effectivement, laisse à penser que peut-être il ne serait pas un homme complètement responsable, que ce n'est pas juste qu'il a des idées radicales, mais que son comportement est radical. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, au niveau électoral, est quelque chose d'assez difficile à récupérer. Le goût pour la provocation dont Le Pen est persuadé que qu'on parle de moi en bien, en mal, l'important c'est qu'on parle de moi, il l'a poussé là, trop loin.
Bruno Maigret, dans l'ombre des Le Pen, 2012. Là est le drame de la droite nationale. Elle a émergé largement grâce à Le Pen. Et c'est à cause de lui qu'elle ne parvient pas à s'imposer en force d'espoir et de gouvernement. En n'ayant pas d'autre projet que sa saga personnelle et celle de son clan, Le Pen est à l'origine d'un immense gâchis pour nos idées et pour la France.
Est-ce qu'on peut expliquer à nos auditeurs sur quoi va donc se forger la scission entre Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret à la fin des années 90, Nicolas Lebourg ?
À la fin des années 90, il y a bon nombre de cadres du Front National qui sont arrivés à la conclusion que Jean-Marie Le Pen ne voulait pas gagner. Cette question, qui va devenir quelque chose de très trivial dans les médias, etc., après, mais après, ils se la posent en premier. Et eux arrivent effectivement à la conclusion qu'en fait, Le Pen est prêt à tout pour conserver une boutique familiale, une entreprise familiale, et dans ce prêt à tout, c'est de ne surtout pas gagner les élections. 15% à la présidentielle, c'est bien, mais des municipalités, des postes de députés, et gagner la présidentielle, ça serait trop. Donc, eux veulent faire de la politique, eux veulent le pouvoir, eux veulent être élus aussi, tout simplement. Donc, bref, ils vont finir par aller à l'affrontement avec Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, c'est pas quelqu'un de vraiment facile à putcher, donc il va se défendre. Jean-Marie Le Pen va faire un coup de judo extraordinaire à Bruno Maigret. Bruno Maigret part avec les militants, les cadres et le programme, dit-il. Jean-Marie Le Pen va dire « ce sont des racialistes ». C'est le premier à utiliser ce terme qui est rentré à la mode depuis dans le vocabulaire. Il va dire « ce sont des racialistes, ce sont les extrémistes qui quittent le parti ». Et il va savoir très bien en jouer, d'autant plus que M. Maigret est persuadé que pour légitimer son autonomie et son indépendance, il faut qu'il soit un peu différent. Et donc il va aller sur deux thèmes très puissamment, la question en fait d'une conception ethnique de la nationalité, et il est le premier à faire campagne contre l'islam, le premier à faire des campagnes islamophobes entre 1999 et 2002.
Bruno Maigret, 1999.
Monsieur Le Pen, sur la question de l'islam, qui est une question majeure, puisque nous sommes en train de subir un développement massif de l'islam dans notre pays, qui est une forme la plus visible, la plus tangible de la colonisation à rebours que nous connaissons sur l'islam. Monsieur Le Pen est extrêmement
Il est un peu mou, quoi, vous trouvez, sur l'islam,
il compromet beaucoup. De notre côté, nous sommes pour la défense de l'identité française et nous considérons que l'islam n'a pas sa place en France. La France n'a pas à devenir un pays musulman.
Bruno Maigret, avec cette conception ethnique de la nationalité et ses campagnes islamophobes, il se marque comme radical. Et Jean-Marie Le Pen, lui, va aller fumer la chicha durant la campagne de 2002. On va le voir des choses tout à fait étonnantes. Il va se présenter comme un homme sage, un homme qui a vieilli, qui veut au contraire réconcilier les Français, réunifier les Français. Il se dédiabolise complètement grâce à Bruno Maigret. Et je veux dire, c'est tellement extraordinaire comme séquence qu'on demande même comment Éric Zemmour, justement, a pu tomber dans le piège par rapport à Marine Le Pen, parce que là aussi, la séquence est quasiment copie conforme, avec les mêmes thèmes, la conception ethnique de la nationalité, l'islamophobie en étendard, se radicaliser et en fait laisser la place notabilisée à l'autre.
Bruno Maigret, dans l'ombre des Le Pen, 2011. Lorsque Le Pen a voulu m'éliminer, et avec moi tous ceux qui refusaient sa conception d'un Front National marginal et patrimonial, j'ai tenté de devenir le numéro 1 pour sauver le mouvement.
Il a très tôt perçu qu'il fallait changer l'image du parti. Et il a déjà aussi eu une idée des mesures sociales, puisque déjà, c'est en 1992 qu'il lance 51 mesures pour le social.
Nona Mayer.
Donc, Bruno Maigret est quelqu'un qui vient de la droite, mais qui est tout à fait en ligne avec ce que Jean-Marie Le Pen définit non pas comme l'extrême droite, mais une droite nationale, sociale et populaire. Il est tout à fait sur cette ligne. Et il pense qu'il faut dire les choses autrement pour que le message passe mieux. Et c'est cette école de gens venus de la droite classique, mais avec les idées de la nouvelle droite.
FR3, 1976.
Michel-Georges Micbert, vous avez 30 ans. Vous dirigez actuellement le bureau politique de la Nouvelle Droite française. Pouvez-vous m'expliquer l'originalité de la Nouvelle Droite française par rapport aux autres mouvements de droite qui ont fait parler d'eux depuis, disons, la Libération ?
Depuis la Libération, les droites de notre pays sodomisent les mouches. Cela tient au malaise évident qu'éprouve depuis 30 ans l'opinion publique devant des idées et des hommes qui ont collaboré avec les nazis.
La nouvelle droite, courant d'extrême droite, né dans les années 70, qui vise à gagner ce qu'on appelle la bataille culturelle. Par exemple, en répétant sans cesse que nous serions menacés par un grand remplacement. Ainsi, vous infiltrez les esprits.
Ils ne sont pas racistes, disent-ils. Et on retrouve là une différence entre le racisme inégalitaire, biologique, brutal, c'est des sous-hommes, c'est des sous-races, etc. Puis ceux qui disent non, les guerriers Maasai, ils sont magnifiques, mais chez eux, ce sont des cultures différentes. Ils insistent sur les différences culturelles. Dans les deux cas, on ne les veut pas chez nous, on les exclut. Mais c'est important, c'est toute cette école de la nouvelle droite qui va infuser au sein du Front National et essayer de faire dire les choses autrement, de même que le terme de préférence nationale, de dire des choses terribles, mais d'une manière douce, allusive. Ils vont être l'artisan de ce changement de discours.
En décembre 1998, le chef coupe des têtes.
Je n'abandonnerai pas la barre du navire à une poignée de lieutenants et de quartier-maîtres félons. J'ai décidé de les sanctionner en frappant la conjuration à la tête. À ma demande, le bureau exécutif a suspendu de leur qualité d'adhérents messieurs Bruno Maigret, Jean-Yves Le Gallou, Philippe Olivier.
Jean-Marie Le Pen, meeting du Front National, 1998. Ce qui me différencie de César qu'approchait Brutus le couteau à la main et qui releva sa toge pour se couvrir la tête, c'est que moi, je sors mon épée et je tue Brutus avant qu'il me tue.
C'est dommage parce qu'effectivement pour eux, c'est dommage pour eux parce que c'était une alliance magnifique. On avait le tribun d'un côté, on avait l'apparatchik de l'autre, et ensemble il y avait le lepénisme et le frontisme. Les choses auraient peut-être évolué autrement s'ils ne s'étaient pas fâchés. Ils se sont fâchés pour des rivalités internes parce que Jean-Marie Le Pen risquait d'être inéligible. Il avait un procès sur le dos et il préférait que ce soit sa femme qui se présente comme candidate au cas où il était inéligible pour les européennes, plutôt que celui qui pouvait légitimement y prétendre, le numéro 2, Bruno Maigret.
Madame Le Pen, bonjour.
Bonjour, monsieur Villalion.
Jeannie, seconde épouse de Jean-Marie Le Pen, 1995.
Est-ce que vous partagez, madame Le Pen, l'ensemble des options politiques de votre mari ?
Oui, je dois dire, et c'est tout nouveau pour moi, car très je n'ai jamais été engagée en politique, je ne suis pas militante, j'étais même parfaitement ignare, je dois dire, protégée par une vie un peu dorée, un peu à loin des réalités, et je ne savais pas du tout ce qu'étaient les problèmes même des Français. Je les ai donc abordés à travers Jean-Marie, mais il écoute, parce que j'ai le point de vue de madame tout le monde, vous savez, j'ai une sensibilité, l'intuition féminine dont on parle souvent, je crois que je l'ai, je ressens les gens, puis mon optimisme fait le reste.
En 1999, Le Pen, menacé d'inéligibilité après son coup d'éclat à Mantes-la-Jolie.
Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein ? Pédé !
Envisage de présenter sa femme, tête de liste FN, pour les européennes.
Et ça a été le début d'une scission. Parce que, en plus, il avait le vent en poupe pour Bruno Maigret au sein du parti. Il avait les cadres derrière lui, il avait fait ce congrès. Il y avait Vitrolles, où sa femme avait été élue, ou maire. Et donc, quand il est arrivé au congrès de Strasbourg, il y a une standing ovation pour lui. Debout, tout le monde en train de l'applaudir. Et il avait le sentiment que les lauriers allaient lui passer sous le nez. Il trouvait ça inique de la part de Jean-Marie Le Pen. Et donc, il a joué le coup de force et il a perdu. Il est parti avec quand même, ça doit être quelque chose comme les deux tiers des cadres et des militants. Il a considérablement affaibli le parti, mais pas l'image de Jean-Marie Le Pen.
En conclusion de ce cinquième épisode, retenez bien qu'à partir de 1987, Jean-Marie Le Pen choisit une stratégie de rupture pour apparaître comme le candidat anti-système.
Vive la France ! Vive le Front National !
Mais à la fin des années 90, Bruno Maigret fait imploser le parti. Et on pense alors que Le Pen est cuit. Trop vieux, trop seul, trop clanique. Les observateurs politiques estiment qu'il est fini. Et puis, surgit le 21 avril 2002.
Rappelons donc cette énorme surprise que vous découvriez sur vos écrans à nouveau. Jean-Marie Le Pen en deuxième position avec 17% des voix.
Un candidat xénophobe et négationniste au second tour de l'élection présidentielle, c'est l'horizon du prochain épisode.
N'ayez pas peur, chers compatriotes, rentrez dans l'espérance.
Jean-Marie Le Pen, l'obsession nationale, un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Nicolas Lormeau, de la Comédie-Française, et Marion Bierry. Assistance éditoriale, Irène Menahem. Documentation sonore, Frédéric Martin et Romain Couturier. Mixage, Benjamin Orgeret. Prochain épisode, aux Marches du Palais. Jean-Marie Le Pen, l'obsession nationale, est un podcast original de France Inter.